Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Et nous continuons encore notre réflexion à propos d'une lecture politique de la Bible, en nous appuyant sur le livre d'Armand Laferrère, dont le titre est « La liberté des hommes, lecture politique de la Bible », paru en 2013 chez Odile Jacob. Nous avons parcouru déjà tout l'Ancien Testament, et la politique dans la Bible s'est révélée d'abord comme une préoccupation du peuple d'Israël pour consolider la cohésion du peuple et sa continuité comme nation. On a vu apparaître progressivement une réflexion plus intime sur la complexité du fonctionnement humain, la liberté individuelle et le mystère d'une responsabilité personnelle devant Dieu. La leçon que nous avons pu tirer des textes jusqu'à présent est qu'on ne peut faire totalement confiance à aucun système politique. Les humains étant trop faillibles, toujours tentés par des excès ou des aberrations. L'Ancien Testament nous a donc montré qu'il est nécessaire de diviser le pouvoir, de le répartir entre plusieurs instances pour qu'elles se corrigent réciproquement, voire s'affrontent. Nous avons vu l'autorité des prophètes, puis celle des juges, celle des rois et bien sûr celle du clergé. Et aucune n'est en elle-même idéale ou parfaite. Et c'est l'alternance et la complémentarité qui peut finalement être constructive à long terme. Et encore, à condition de garder suffisamment de recul et de prudence vis-à-vis de tout exercice de l'autorité et du pouvoir.
Oui, parce qu'en effet, le vrai problème reste que ces individus, que les individus ont, savoir ce qu'ils ont dans le cœur, hein. Car c'est ce qu'on appelle le péché, hein, qui rend capable de tout pervertir, même les meilleures intentions de départ. Et rapidement, ça peut déraper, hein. Nous l'avons vu avec Moïse, qui n'arrive pas à obtenir vraiment l'obéissance de son peuple. Puis ensuite avec les juges, hein, qui malgré leur sagesse, hein, font des erreurs lamentables. Et surtout avec les rois, hein, qui ont finalement conduit Israël à sa perte, puisque la nation autonome disparaît complètement. Donc le peuple juif devra vivre sans cesse sous domination étrangère. Hein. On a vu Babylone, les Perses, les Grecs et enfin Rome, période hein, où nous voyons apparaître Jésus. Alors d'un point de vue humain, Jésus est d'abord perçu comme un juif fervent, hein, né dans une famille d'artisans, habitant Nazareth, donc un petit village hein, de Galilée, sans aucune importance politique. Alors comment expliquer que Jésus puisse y devenir un enseignement brillant? Tellement savant qu'il est entouré de nombreux disciples, également un guérisseur célèbre qui attire les foules. On a vraiment peu d'indications hein, concrètes sur la vie de Jésus durant ses 30 premières années. Alors certains historiens ont proposé l'hypothèse de l'existence d'un milieu privilégié à Nazareth. Alors peut-être des familles de Jérusalem, hein, sacerdotales ou princières, réfugiées là après la première destruction du temple. Alors, ceux-ci auraient ensuite formé un genre de secte, hein, des sectes apocalyptiques appelées Nazaréens, où l'on attendait là la naissance d'un Messie descendant du roi David.
C'est une explication, hein. On n'a pas de preuves, mais c'est intéressant. Ça a le mérite de donner un contexte plausible au Jésus de l'histoire. Reste que ce qu'on attendait du Messie en tant que fils de David, justement, c'est d'abord la reconquête de l'indépendance politique d'Israël. Or Jésus, ben, tout impressionnant qu'il était par la puissance de ses charismes, il ne donnait aucun signe de vouloir diriger une révolte armée pour accéder à une royauté temporelle. A priori, il ne veut pas être un chef ou un dirigeant. Il veut aider les gens à aller mieux, à approfondir leur foi et à mener surtout une vie conforme à la loi de Dieu. Bref, il veut régénérer le judaïsme, lui rendre sa ferveur originelle. On lit par exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et puis toujours Matthieu, chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc Jésus veut redresser une situation religieuse dégradée et non pas la faire la révolution. Mais je ne sais pas, hein, corriger le judaïsme à cette époque, c'est faire face à, surtout à des divisions internes invraisemblables. Il y a tellement de factions différentes. Hein, on sait les Sadducéens, les Pharisiens, les Zélotes, les Baptistes, les Esséniens. Sans compter l'influence des Juifs dispersés autour de la Méditerranée, c'est-à-dire une diaspora qui est hellénisante et parfois même très proche du pouvoir romain. Comment Jésus pouvait-il espérer recréer une unité dans tout ce micmac ?
Oui, ce qui est particulièrement le cas du judaïsme, c'est que la religion et l'organisation politique sont très imbriquées. C'est en effet la loi de Moïse qui sert également de loi sociale et juridique pour la vie quotidienne. Rappelons-nous que c'est dans la Bible que l'on trouve les 613 commandements auxquels les Juifs doivent obéir pour être non seulement fidèles à Dieu, mais aussi être de bons citoyens. Alors, la communauté juive était dirigée par un conseil de notables, appelé Sanhédrin, qui réunissait entre 3 et 70 membres pour régler tous les problèmes, selon qu'ils étaient d'ordre religieux, social, juridique ou administratif. À leur tête était généralement un grand prêtre qui présidait les débats, et parmi ces notables se trouvaient en principe des représentants des divers mouvements du judaïsme. Évidemment, ce qui devait provoquer sûrement des conflits. On sait par exemple, notamment grâce aux Actes des Apôtres, que saint Paul s'est servi de ses dissensions internes pour se défendre dans des procès qu'on lui faisait. Parce qu'il avait l'art de monter les uns contre les autres pour révéler leurs contradictions. Alors, comment Jésus espérait-il faire l'unité ? Par sa propre personne d'abord, je pense, car il avait en lui quand même les aspects de presque tous les mouvements du judaïsme. Il était quand même respectueux de la loi, comme les Sadducéens, il était pieux, comme les pharisiens, proche du mouvement baptiste, par saint Jean, et puis sans doute aussi de la vertu, par les Esséniens. Il était guérisseur, comme les Assidines, prophète de la fin des temps, comme les mouvements apocalyptiques. Alors il avait tout, presque, évidemment, sauf la lutte armée des Zélotes.
Et voilà, c'est le problème, parce que dans la personne de Jésus, il y a vraiment une convergence de tous les aspects du judaïsme. C'est un carrefour qui aurait pu rassembler autour de lui, de son enseignement, puisqu'il s'adressait à tous. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fut perçu. Sans doute parce que sa sincérité et ses exigences renvoyaient chacun à une réalité intérieure, et que ce n'est pas toujours agréable de se voir démasqué. Il fallait accepter de se remettre en question. Il fallait reconnaître ses failles pour pouvoir changer. Et ça, c'est tellement plus facile de critiquer l'autre, combattre celui qui vous révèle une vérité qu'on ne veut pas admettre. Comme ça, rien ne change et on peut vivre tranquillement. Jésus a divisé le peuple juif, donc. Certains acceptèrent d'être bousculés et sont devenus ses disciples. D'autres se sont crispés et, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, et ils ont tout fait pour éliminer Jésus. Il faut noter quand même que c'est surtout le peuple qui a suivi Jésus, et que ce sont essentiellement les notables qui se sont raidis contre lui. Sans doute parce que plus on en a, plus on veut s'accrocher à ce qu'on a. Il voulait donc sa mort, mais c'était pas dans les habitudes de mettre à mort soi-même, parce qu'il y a le commandement, tu ne tueras pas, si on veut avoir l'air un peu convenable. Donc ils font appel aux occupants romains pour faire le sale boulot. Et pour cela, malheureusement, il fallait amener les problèmes dans le champ de la politique. Il fallait montrer que Jésus était l'ennemi de César et un danger pour l'Empire romain.
Israel in Do.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, sur le thème de la lecture politique de la Bible. Et nous abordons à présent le Nouveau Testament et la vie de Jésus, confronté à l'opposition des dirigeants du judaïsme. Plutôt que d'admettre des aberrations dans leur comportement ou dans leur interprétation de la loi, ils décident de se débarrasser de celui qui représente pour eux un simple empêcheur de danser en rond. Mais pour ne pas se salir les mains en le mettant à mort, il faut qu'il fasse appel aux autorités romaines. Quels sont alors les arguments employés pour faire appel à Rome? D'abord, on va présenter Jésus comme un agitateur, parce qu'il crée du désordre public. Comme de fait, il divise, les uns admirent, les autres le suivent avec ferveur, puis il y a les sceptiques, les critiques. Il y a du remue-ménage partout où Jésus passe. Mais est-ce suffisant pour le faire supprimer?
Non, quand même pas, il ne faut pas exagérer. Hein. Il en faut quand même plus pour faire réagir l'Empire romain. Alors les dirigeants juifs vont mettre l'accent maintenant sur ce qui leur semble un scandaleux blasphème. Jésus, comme Messie, parle de Dieu comme étant son Père. Et il se fait l'égal de Dieu en donnant avec autorité un enseignement nouveau qui complète les Écritures de l'Ancien Testament. Rappelons en particulier sa formule clé hein, que nous rapporte l'évangile de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit, hein, eh bien moi je vous dis, voilà. Alors donc Jésus ose corriger le sens hein, de la Torah. Citons par exemple donc dans Matthieu chapitre 5, 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Donc là, Jésus apporte un changement hein, de niveau dans la tradition juive. Pour lui, les exigences intérieures passent avant les actes. Il veut d'abord scruter le fond des cœurs. Et cela révèle la puissance de sa parole. C'est une nouvelle parole de Dieu. Alors la défense des responsables juifs est toute trouvée. Hein. Jésus se prend pour Dieu. C'est un blasphème. Et la loi de Moïse prévoit de mettre à mort les blasphémateurs. Objectivement, ils n'avaient alors qu'à dilapider Jésus, hein, selon leur coutume. Pas besoin de faire appel à Rome, qui d'ailleurs considérait que c'était des problèmes internes à la religion juive, et qui n'avait pas lieu de s'en mêler quand même.
Ben oui, il faut dire quand même que la religion juive était religio licita, c'est-à-dire religion licite et permise, tolérée dans l'Empire romain. Elle ne présente a priori aucun danger pour l'ordre romain. Il y avait bien de temps en temps des problèmes parce que les Juifs avaient décidément des comportements incongrus pour le monde païen. Par exemple, ils ne s'inclinaient pas devant les puissants, car ils n'acceptaient de s'incliner que devant le Dieu unique. Alors, toutes des choses comme ça, ça leur valait quelquefois des persécutions, et même on a connu un pogrom à Alexandrie en 38. Mais la plupart du temps, les relations entre juifs et romains étaient sereines. Sauf, hélas, exception quand l'empereur décidait d'être adoré comme un dieu. Et malheureusement aussi, ça le prenait régulièrement comme une poussée d'urticaire. Donc c'est justement sur ça que les autorités juives vont insister. Si Jésus est Dieu sur terre, alors il est dangereux pour l'image impériale. C'est un concurrent direct. Jésus risque de faire de l'ombre à la toute-puissance des empereurs romains. Je trouve l'argument tordu, mais il a fonctionné, hein, puisque pour ne pas risquer de fâcher l'empereur, on va arrêter Jésus et lui faire un procès. On sait bien que cela ne fut pas simple. Ponce Pilate, le gouverneur romain, n'était pas convaincu de la dangerosité de Jésus, hein, loin de là. Mais la pression des responsables juifs était tellement insistante et elle-même causait du désordre dans la région. Donc, pour avoir la paix, on fait mettre Jésus à mort. Ouais.
Heureusement, cela a produit l'effet inverse hein, que celui qu'on attendait. Au lieu de tomber dans l'oubli, Jésus ressuscite et engendre une immense communauté de disciples qui va s'étendre au monde entier et perpétuer son enseignement. D'abord, d'une façon tout à fait inattendue, hein, il devient vraiment roi dans un royaume qui n'est pas celui pour lequel se battent les hommes habituellement. Plus question là d'autorité, de pouvoir sur les autres dans ce royaume. Mais au contraire, De la bienveillance réciproque, de la charité, du service mutuel. Pourtant, l'enseignement du Christ a forcément un aspect politique, parce que la politique, c'est finalement l'art de vivre ensemble. Mais la façon dont Jésus nous demande de faire de la politique est complètement inversée. On ne réfléchit pas d'abord à l'établissement d'une organisation sociale qui devrait être imposée de l'extérieur à des individus assujettis aux règles de la société. Non, au contraire, Jésus met d'abord l'accent sur la conscience de soi, sur l'introspection, l'éveil d'un sens intérieur qui pourrait se résumer en un seul mot, amour, amour de Dieu, amour du prochain. Tout le reste n'a plus qu'à s'harmoniser avec cet état d'esprit. Alors, le problème, c'est juste d'arriver à se transformer soi-même pour être amour et d'agir en conséquence envers les autres. Et pourtant, même résumé à cet essentiel, ce programme de vie est loin d'être simple à réaliser. Alors la seule chose dont on est sûr, c'est que cela ne pourra pas se réaliser avec la force et la brutalité. C'est le mode d'emploi général, c'est pas toujours évident à percevoir et à mettre en application encore moins.
L'enseignement de Jésus ne s'adressait pas aux hommes politiques pour leur donner des nouvelles méthodes de gouvernement. Il s'adressait à tous ceux qui simplement venaient l'écouter. Donc chacun était personnellement concerné par sa méthode qui invitait à changer de l'intérieur, commencer le renouveau en soi-même. Et malheureusement, ça a provoqué quand même un peu une sidération. Tout le monde était surpris parce que ça ne ressemble pas du tout à l'enseignement habituel, surtout à cette époque où la violence armée est le moyen d'assurer l'ordre social, basé sur une hiérarchie autoritaire, des inégalités flagrantes et les faibles et les pauvres méprisés ou exploités. J'imagine quand même que le sermon sur la montagne fut un choc pour ceux qui l'ont entendu la première fois. Ou bien on se disait « cet homme est complètement fou », ou bien le total retournement des valeurs qu'il représentait ouvrait une telle brèche dans les mentalités que cela ne pouvait que provoquer un bouleversement. Vous écoutez l'émission La Bible en question, à propos d'une lecture politique de la Bible, et nous sommes en train de réfléchir au choc culturel que fut certainement l'enseignement de Jésus dans le contexte du judaïsme sous l'occupation romaine. Surtout si on pense au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, celui qu'on appelle le sermon sur la montagne. Comment Jésus ose-t-il dire « Heureux les pauvres en esprit » ? Ce qui veut dire « heureux les faibles, heureux les vulnérables, heureux ceux qui ne prétendent pas tout savoir, mais qui attendent tout de Dieu. » Comment ose-t-il dire « heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux les miséricordieux, les artisans de paix ?» C'est pas du tout un type d'homme adapté au monde réel. Comment peut-on être heureux en étant à ce point socialement handicapé?
Oui, c'est sûr qu'on s'attend plus à un discours du genre « heureux les forts, heureux les puissants, heureux les volontaires, les autoritaires qui savent s'imposer, ceux qui ont confiance en eux, qui ne craignent personne, heureux les riches, parce que quand même, l'argent, ça ouvre quand même pas mal de portes. » Ça, ce serait plutôt du réalisme, que ce soit sous l'Empire romain ou d'ailleurs à n'importe quelle époque, y compris la nôtre. Alors sans oublier ce que Jésus dit à propos de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et même il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Alors, qui sont ces ridicules qui croient encore à la justice, hein? Bon, un petit peu, mais enfin bon. Et qui acceptent même de souffrir, hein, pour l'obtenir. Car tout le monde sait bien que la justice, voilà, ça existe assez peu dans ce bas monde. C'est plutôt la loi de la jungle, la loi du plus fort, hein, qui n'a jamais entendu les exhortations psychologiques et pédagogiques, quelquefois assez familières. Donc, apprends à te battre, hein, à être le plus fort, le meilleur, à vaincre tous les autres. Essayer de les dominer. Hein, il faut être sans pitié pour arriver au sommet. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, etc. Hein, voilà, Et même si on n'en a pas toujours conscience, toute notre vie quotidienne est imprégnée par l'idée qu'il vaut mieux quand même être plutôt agressif, hein, pour s'en sortir, hein, que faible. Hein. C'est les faibles qui sont éliminés, généralement.
C'est là qu'on voit que Jésus parle d'un ailleurs, d'un lieu où se trouve la récompense et le bonheur de ceux qui choisiront la bonté, la douceur et la miséricorde. Il parle du royaume de Dieu. Mais il n'est pas sûr que Jésus évoque là simplement un au-delà après la mort. Ce royaume commence déjà là où Jésus se trouve, et dans la vie de tous ceux qui l'écoutent avec foi. Et il existe une forme de bonheur immédiat dans le simple fait de croire à ce que demande Jésus et à le mettre en pratique. En soi, c'est déjà une sortie du monde, un au-delà, mais vécu, de l'intérieur même de la vie de celui qui croit. Et c'est aussi de la politique. Puisque dans les Béatitudes, Jésus dit « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » L'avenir de la terre n'est possible qu'à la condition de changer radicalement le système de gouvernement du monde. Ah, et ben on le voit déjà dans nos vies aujourd'hui, hein. Si l'humanité continue sur sa lancée, domination brutale de la nature, exploitation aveugle des ressources de la planète et surtout la volonté d'enrichissement égoïste, nous allons inéluctablement vers des drames. Et qui ne concerneront pas seulement les espèces animales et végétales. À mon avis, l'humanité elle-même va souffrir de l'engrenage malsain qu'elle a engendré. Jésus le prévoit, si je peux dire, hein, mais encore une fois, il ne propose pas un nouveau parti politique. Il demande la conversion des cœurs. Parce que le royaume, ben, il commence là où on se change soi-même.
Oui, il nous rappelle que toute communauté humaine est d'abord constituée de personnes et qu'on ne changera l'ordre social que si ces personnes agissent et pensent différemment. Le modèle politique que sous-entend Jésus, là, c'est la communauté. C'est-à-dire la collaboration libre et les responsabilités consciemment partagées. Il ne croit pas à l'autorité, à l'obéissance aveugle aux institutions. Il veut des individus fraternels et respectueux les uns des autres. La domination de quelques-uns, dépositaires de tout le pouvoir, hein, asservissant et écrasant les autres sous prétexte de les guider, ne paraît pas un bon modèle de fonctionnement selon Jésus. Il veut vraiment éveiller chacun, hein, au meilleur de son potentiel, et que la communauté soit un lieu où l'on vit ensemble les différences dans une complémentarité de dons. Jésus veut la sortie du système pervers du pouvoir et de ses prérogatives. Il espère une société d'égaux, libre, conscient et responsable. Et cela commence dès ce monde-ci, hein, où ce type de communauté pourrait déjà se développer et agir dans un monde en montrant qu'une autre humanité est possible. Il me semble que c'est cela, hein, que devrait être l'Église, hein, un modèle différent d'organisation humaine qui fait envie, hein, attire par sa générosité, par sa chaleureuse bienveillance, par le respect égal pour chacun. Et je suis certaine que c'est ce qui a fait que le christianisme s'est développé si rapidement à l'origine. Les communautés à l'origine vivaient cela, hein, et elles étaient attractives.
Oui, en tout cas, c'est le point de vue que défend Armand Laferrère dans son livre. Il constate qu'au fur et à mesure, là je cite, que la religion chrétienne s'est répandue dans l'Empire, les aspects les plus insupportables de l'ordre romain, c'est-à-dire les combats de gladiateurs, les sacrifices humains, l'esclavage, ont peu à peu disparu. Il pense que les disciples de Jésus ont réussi, au fil de l'histoire, à imposer les plus importants changements politiques, comme la fin de l'esclavage ou plus récemment la fin de la ségrégation raciale. Mais tout cela sans jamais faire la révolution, sans révolte sanglante, simplement en faisant appel au sens intime de la dignité et de la liberté humaine que chacun, en principe, peut naturellement désirer. Armand Laferrère pense que c'est grâce, de nouveau je cite, à la création de communautés nouvelles fondées sur une bonne volonté réciproque et sur la reconnaissance mutuelle de la liberté de chacun, voilà, que se fera progressivement le changement des valeurs et des comportements des individus. La bonne volonté réciproque, c'est traiter le prochain comme on voudrait soi-même être traité, selon une règle d'or que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Et c'est là le fondement de l'action politique du chrétien, qui, en principe, discrètement, fait son chemin dans l'humanité. En tout cas, le point de vue optimiste, Armand Laferrère, parce que pour ma part, j'ai plus de crainte quand je vois la régression de la civilisation chrétienne aujourd'hui.
Oui, c'est uniquement le catholicisme occidental qui perd son influence, hein, en Europe et aux États-Unis. Mais n'oublions pas que Armand Laferrère est protestant, hein, et que les communautés protestantes sont par contre en constante augmentation dans le monde, et particulièrement les communautés évangéliques. Il y a une vitalité, hein, de ces petites communautés qui veulent retrouver le fonctionnement du christianisme des origines. C'est un fait que partout on peut constater un rejet, hein, de l'autorité sous toutes ses formes. Et cela se ressent aussi dans l'Église du Christ. Les êtres humains sont de plus en plus instruits, éduqués, et ne veulent plus être menés comme du bétail par des autorités qui leur paraissent arbitraires. Et en plus, dont on n'est pas vraiment sûr des compétences, hein, et de l'authenticité. Cela est vrai même, hein, pour les ecclésiastiques, hein, et malheureusement, les récents scandales, hein, de pédophilie dans l'Église ne vont pas arranger ces réactions de rejet de l'institution hiérarchique. On peut effectivement se demander si c'est bien le modèle d'Église, hein, qu'a souhaité le Christ. Ne désirait-il pas plutôt des petites communautés vivantes, hein, à l'échelle humaine, plongées dans le monde, hein, où elles peuvent être le levain de toute pâte humaine? Jésus ne voulait-il pas la modestie, hein, des petites fraternités qui auraient été le sel de la terre, qui auraient influencé la vie politique en prêchant par l'exemple, hein, surtout vivant? Jésus espérait-il vraiment un énorme appareil institutionnel, hein, qui prétend guider le monde avec autorité? Moi, je trouve que ce n'est plus très évident, hein, de nos jours.
Oui, mais l'institution, elle s'est développée aussi par nécessité, c'est pas fait de rien. Il fallait maintenir l'unité, une unité basée sur une vérité unique, contre ce qu'on a connu dans l'histoire, le danger des hérésies et le développement de petites sectes, mais un peu folles, on en a aussi connu récemment. Donc il faut surveiller le modèle aussi centralisé, qu'on peut détester, mais autour du pape et du Vatican. Il correspondait bien au monde politique, c'est-à-dire les empires totalitaires. Il fallait tenir tête, les empereurs, les grands chefs d'État en Russie, vous connaissez tout ça, le totalitarisme. Comment on ne peut pas faire sans avoir un appareil institutionnel fort en face. Mais il faudrait quand même retrouver la vitalité active des petites communautés locales. Comment ? Et sans perdre pour autant le sens de l'unité de toute l'Église. Nous devrons encore réfléchir à cela lors de la prochaine émission. Pour le moment, nous devons vous dire au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous, à bientôt.